De nouveau, le nouvel émissaire américain a encore frappé en Éthiopie. Des affrontements entre les troupes du Soudan et de l'Éthiopie ont eu lieu ce lundi sur les frontières communes près des villages d'El Ouraïcha et de Bassanda. Cela a été rapporté par les médias mainstream qui ont directement accusé les soldats éthiopiens. Et dans ce cadre, le Soudan a annoncé le rappel de son ambassadeur d'Éthiopie et a convoqué l'ambassadeur éthiopien à Khartoum au ministère des Affaires étrangères. Et pour sa part, l'Éthiopie a démenti les accusations portées par le Soudan selon lesquelles l'armée éthiopienne était impliquée dans l'incident de la frontière commune qui s'est produit le 22 juin et qui a entraîné la mort de plusieurs personnes. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré lundi que ce jour-là, il y avait eu une invasion donc du territoire éthiopien par des unités de l'armée régulière du Soudan, soutenues par des éléments du Front populaire de libération du Tigré. La milice éthiopienne locale a agi contre eux et le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement éthiopien regrette la perte de vies humaines à la suite d'une escarmouche entre l'armée soudanaise et une milice locale sur laquelle une enquête sera menée très prochainement. L'Éthiopie rejette donc catégoriquement la déformation de ces faits par les médias mainstream et les fausses informations rapportées aux forces de défense soudanaises qui ont injustement blâmé l'Éthiopie alors que c'est l'unité de l'armée soudanaise tout d'abord qui a franchi la frontière éthiopienne provoquant l'incident et a exprimé l'espoir que le gouvernement soudanais s'abstiendrait de toute escalade de l'incident et prendrait des mesures susceptibles de désamorcer la situation. Le gouvernement éthiopien estime que l'incident a été délibérément concocté pour saper les relations profondément enracinées entre les peuples éthiopiens et soudanais. En plus de cela, l'incident a été conçu pour détruire l'Éthiopie de sa voie de paix et de développement, et le gouvernement éthiopien reste cependant attaché au principe de résolution à l'amiable des différends entre les États, comme l'a déclaré le ministère. Les escarmouches entre les deux pays voisins sont devenues courantes ces dernières années au sujet de la région frontalière contestée et très fertile d'El Fachaga. Donc principalement après que les forces armées éthiopiennes ont lancé leur offensive contre les rebelles du TPLF dans la région du Tigré. C'est principalement à ce moment-là que des heurts ont eu lieu à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie, essentiellement dans cette zone. Le ministère soudanais des Affaires étrangères, Asmaa Mohamed Abdallah, aurait déclaré à propos de la dernière escarmouche que les hommes avaient été capturés sur le territoire soudanais le 22 juin et emmenés en Éthiopie où ils ont été tués. Et selon un responsable militaire soudanais, les soldats ont été capturés dans une région frontalière près de la zone donc d'El Fachaga. Des rapports ont également indiqué que si le ministère avait convoqué l'ambassadeur éthiopien à Khartoum, il a également rappelé son propre ambassadeur d'Addis Abeba pour des consultations et il a en outre été déclaré que le Soudan était en train de se préparer à déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. L'armée soudanaise a accusé donc dimanche soir l'Éthiopie d'exhiber les corps en public, comme l'a rapporté Arab News, et dans un acte qui contrevient à toutes les lois et coutumes de la guerre et au droit international humanitaire, sept soldats soudanais et un citoyen ont été abattus, ajoutant que cet acte perfide ne passera pas, donc sans réponse, a déclaré l'armée dans un rapport. Depuis 1902, l'Éthiopie et le Soudan se sont engagés dans un différend frontalier sur un endroit appelé El Fachaga, une bande de terre très fertile que les deux pays se disputent à la suite de la démarcation hasardeuse de l'endroit lorsque le Soudan était sous la domination coloniale britannique. Il y a eu donc des affrontements sporadiques entre les forces des deux pays, mais la situation s'est rapidement calmée jusqu'à ce que l'Éthiopie repousse les groupes rebelles soutenus par les États-Unis en 2020. Récemment, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke a fait part aux législateurs de la détermination de l'Éthiopie à régler le problème frontalier avec le Soudan en poursuivant une voie pacifique sans infliger d'atrocités, a-t-il déclaré. Nous nous efforçons de résoudre la question de manière pacifique et l'Éthiopie continuera dans cette direction et nous voulons signaler que nous travaillons à ce niveau. Ce n'est évidemment pas la première fois que des échauffourées apparaissent dans la région d'El Fachaga et ce n'est pas la première fois donc que des rebelles du TPLF ont tenté de créer une guerre entre l'armée soudanaise et l'armée éthiopienne. Et à plusieurs reprises, les rebelles s'étaient emparés de l'uniforme des soldats éthiopiens et même érythréens et ont commencé à attaquer les soldats soudanais pour créer une guerre entre le Soudan et l'Éthiopie. Et derrière ce genre de scénario se trouvent évidemment des puissances comme Washington ou encore même l'ONU. En rappel, 9 groupes rebelles éthiopiens ont signé une alliance à Washington baptisée Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes. Et leur mot d'ordre, donc, l'intention est de renverser le régime, a déclaré le représentant du TPLF lors de la signature de cette alliance à Washington. Le TPLF et l'OLA font partie de cette union avec 7 autres organisations moins connues basées dans diverses régions comme Gambela, Afar, Somalie, Benishangul ou les ethnies Ageo, Kemant, Sidama en Éthiopie. Il y a un peu plus d'une semaine, c'était les rebelles de l'OLA, donc les rebelles Oromo, qui avaient donc massacré des centaines de civils et qui ont essayé d'imputer ces tueries aux forces pro-gouvernementales. Et ces scénarios apparaissent donc tout de suite après l'apparition, il y a un mois, du nouvel émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer. Ce qui nous laisse évidemment croire que ces coups montés viennent certainement de lui et de son équipe. L'ancien émissaire américain, David Satterfield, avait directement été remplacé suite à ses échecs dans la déstabilisation de l'Éthiopie et de la Corne de l'Afrique. Les 4 pays couverts par la mission de Mike Hammer sont la Somalie, Djibouti, l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais sa cible principale pour le moment, c'est bien la déstabilisation de l'Éthiopie, qui est devenue un pivot géopolitique de taille dans la Corne de l'Afrique. Et en déstabilisant ce pays, l'effet domino pourrait faire le reste. C'est donc pour cela que depuis un mois, il y a des scénarios qui s'installent en Éthiopie, comme le massacre effectué par les rebelles de l'OLA dans la région, ou encore des soldats soudanais qui se font tuer à la frontière dans la région d'El Fachaga. Des scénarios similaires apparaissent d'ailleurs un peu partout en Afrique, là où les États-Unis veulent s'implanter, notamment en Afrique de l'Ouest, principalement au Mali et dans le Sahel, ou en Afrique centrale, en RDC. Ces scénarios entrent donc dans la politique de recolonisation de l'Afrique par Washington. Il est important également de préciser que si ces scénarios se mettent en place en Afrique, c'est parce que les États africains n'ont pas l'intention de laisser les États-Unis prendre le monopole du continent. Si la France et ses alliés européens se font chasser des 4 coins du continent, ce n'est certainement pas pour que les États-Unis prennent leur place. C'est pour cela qu'ils sont obligés d'avoir recours à ce genre de pratiques, car ils savent que face à un continent uni, aucune puissance au monde ne pourra plus jamais recoloniser l'Afrique. Les sommets des chefs d'État du Commonwealth s'est conclu samedi à Kigali au Rwanda. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a tout fait pour imposer de nouveau un soutien à l'Ukraine, mais 18 pays, notamment africains, ont refusé. Arrivé à Kigali mercredi dernier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vouloir renforcer la coopération entre le Canada et l'Afrique. Et pour ce faire, il comptait sur le sommet des chefs d'État du Commonwealth et un événement qui a été donc reporté pendant 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19. Sa tenue au Rwanda entre le 21 et le 25 juin était l'occasion d'annoncer l'intégration du Togo et du Gabon au sein du bloc anglophone. Après plusieurs annonces, comme celle du statut d'observateur permanent du Canada, donc auprès de l'Union africaine, ainsi que celle de la création d'une commission spéciale Rwanda-Canada, le Premier ministre Trudeau a initié une série de plus de 20 rencontres. Objectif, arriver à convaincre ses homologues, principalement africains, de formuler une condamnation officielle de la militarisation de la crise alimentaire par la Russie au nom du Commonwealth. Le dirigeant canadien voulait également faire condamner l'opération militaire russe en Ukraine par les chefs d'État présents. Or, le communiqué final du Commonwealth dit simplement que le Commonwealth of Nations prend donc note de la résolution de l'ONU condamnant la Russie. Quant à la crise alimentaire à laquelle la journée du vendredi était consacrée, les chefs d'État africains ont appelé à promouvoir l'investissement du Commonwealth dans l'agriculture en Afrique. Les présidents africains ne veulent pas parler de l'Ukraine avec Trudeau. La chaîne canadienne CBC donc estime que Trudeau s'est ridiculisé à Kigali. Les tête-à-tête du Premier ministre canadien avec Paul Kagame du Rwanda, Hakainde Hichilema de la Zambie, Muhammadu Buhari du Nigeria, Nana Akufo-Addo du Ghana, mais également avec la directrice de l'OMC, Gozi Okonjo-Iweala, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ainsi que le président de la CAF Patrice Motsepe ont surtout montré que les leaders africains refusent tous de prendre position quant à l'Ukraine. Kagame et Hichilema ont préféré, pour leur part, discuter d'écologie avec le leader nord-américain. Quant à Akufo-Addo et Buhari, bien qu'ils aient accepté les félicitations pour la condamnation de la Russie à l'ONU par Trudeau, ils ont clairement évité de discuter du sujet. D'autres présidents africains invités au Rwanda, donc pour ce sommet, se sont absentés. Philippe Nyusi du Mozambique et Yoweri Museveni de l'Ouganda notamment. Mais également les nouveaux membres du Commonwealth, le Togo et le Gabon qui étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Ali Bongo pour sa part a justifié son absence par la recrudescence des cas de Covid-19. Quant à Faure Gnassingbé, il a simplement tweeté qu'il remerciait le Commonwealth d'avoir accepté l'adhésion de son pays. Du côté de l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa a été également attendu à Kigali, un autre sommet a eu la primauté sur le sommet du Commonwealth. En effet, Ramaphosa est resté à Pretoria, d'où il a assisté aux travaux du 14e sommet des BRICS en visioconférence, et l'Inde, également membre du Commonwealth, s'est absentée pour la même raison.
Le président angolais João Lourenço, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et médiateur de l'Union africaine dans la crise à l'est de la RDC, entre le pays éponyme et le Rwanda, va organiser un sommet à Luanda qu'il appelle « Sommet des Trois » entre le président Tshisekedi, le président Kagame et lui-même le président angolais. À quoi devons s'attendre de ce sommet ?
La situation dans la région des Grands Lacs, évidemment, elle fait l'objet d'une offensive diplomatique tous azimuts. Il y a le sommet du Commonwealth qui est une démonstration en faveur du Rwanda. Il y a le sommet de Nairobi de l'Union des États d'Afrique centrale qui est celle des voisins du Congo. Et enfin, évidemment, il y a toutes les autres offensives diplomatiques. C'est-à-dire que les voisins du Congo et du Rwanda sont très inquiets. En effet, toutes les conditions sont réunies comme en 1988. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre mondiale du Congo, une explosion régionale dans laquelle 10 États voisins de la RDC sont venus faire la guerre en RDC et dans laquelle 10 organisations politico-militaires sont intervenues pour déstabiliser la RDC. Certaines sont encore à l'œuvre d'ailleurs. Il faut comprendre quelque chose, c'est que normalement, cette situation n'aurait pas dû arriver parce que nous sommes en présence d'une coalition de ce qui est au départ des agents américains. Kagame représente la porte d'entrée des anglo-saxons et des américains dans la région depuis 1994 quand il a été amené au pouvoir par Bill Clinton et l'Angola. Mais Tshisekedi, qui est un membre de l'Atlantic Council, mais aussi un agent triple des services secrets français et de la couronne belge. C'est donc un agent américain, membre de l'Atlantic Council qui pilote la politique américaine. Et enfin, Museveni lui-même est considéré comme un homme d'influence des Américains. Normalement, ils étaient il y a 2 ans en parfaite entente, mais la situation s'est dégradée. La soi-disant prospérité du Rwanda, elle est basée sur le pillage de la RDC, en particulier d'une richesse, d'une terre rare, qu'on appelle le coltan et qui est indispensable pour les téléphones mobiles et les ordinateurs. La Rwanda exporte 5 fois plus de coltan que le Congo, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule mine de coltan au Rwanda. Tout est volé dans les provinces voisines du Katanga, du Kasaï, de l'Ituri et du Tanganyika. Mais maintenant, Tshisekedi, évidemment, il est pris en étau entre ses accords avec le Rwanda, notamment en 2018, quand il a accepté que l'armée rwandaise puisse intervenir sur le territoire congolais, et le pillage organisé par le Rwanda. De l'autre côté, il est coincé par sa population. Il va bientôt avoir des élections où il essaie d'être réélu, mais la population congolaise est excédée. Enfin, il y a un 4e agent américain qui se déchaîne dans l'affaire, c'est Fayulu, qui était l'homme désigné par la multinationale suisso-américaine Glencore pour succéder à Joseph Kabila Kabenge. Fayulu, qui est député au Parlement congolais, pousse celui-ci à ce que le Congo déclare la guerre au Rwanda. Pourquoi cette coalition d'agents américains qui, au lieu de s'entendre, cherche la confrontation? Parce que, avec raison, comme on le dit à Téhéran et comme on le dit à une grande partie de l'Afrique, les incidents du Congo actuellement, la percée du M23, les activités anti-congolaises du Rwanda et de l'Ouganda et la réaction des Congolais, c'est une guerre américaine. Les Américains, pour intervenir au Congo, ils ont besoin d'un Congo déstabilisé. C'est pour ça qu'ils avaient organisé une révolution de couleur qui a abouti à la chute du régime de Kabila et à la mise en place du régime de Tshisekedi. Les Américains, pour contrôler le Congo et les multinationales américaines, ils ont besoin de cette déstabilisation. Et donc, leur intérêt est de renouveler les conditions de cette guerre mondiale du Congo de 1998, qu'arrive la Seconde Guerre mondiale. Mais les voisins du Congo, ils sont extrêmement inquiets. Il y a maintenant ce qui n'existait pas en 1998, l'Union des États d'Afrique centrale, avec notamment l'Angola et le Kenya qui sont intervenus en 1998 et qui ne veulent pas se retrouver impliqués dans une nouvelle guerre. Donc, eux cherchent à pacifier les choses. Et à Nairobi, ils ont désavoué le Rwanda, puisque la force régionale africaine qui va être déployée, elle ne comprend pas, le Rwanda en a été exclu. Mais il y a également un État qui n'existait pas en 1998, c'est le Burundi. Jusque aujourd'hui, depuis 1994, le Rwanda, c'est l'État géopolitique le plus important dans la région des Grands Lacs, c'est la porte d'entrée des Anglo-Saxons et des Américains. Mais depuis 2016, le Burundi s'est renforcé, a noué des accords avec la Russie et avec la Chine, et la Russie notamment a renforcé l'armée du Burundi. Le Burundi aujourd'hui joue un rôle diplomatique tous azimuts, en particulier dans l'Union régionale des États d'Afrique centrale, mais aussi dans la région des Grands Lacs et en RDC, en particulier parce qu'il est voisin de la province du Tanganyika. Le Tanganyika, c'est l'ancienne colonie allemande qui s'est appelée ensuite le Rwanda et le Burundi lorsqu'elle est passée en 1917 sous la domination belge. Le Burundi, dans les prochaines années, il va jouer pour le bloc de l'Est le rôle de porte d'entrée dans la région des Grands Lacs, le rôle que le Rwanda a joué pour les Américains. Le Burundi, évidemment, veut la stabilisation. Il avait d'excellents liens du temps de Feu Kourouziza avec Joseph Kabila Kabendie, et il veut évidemment pas de la déstabilisation du Congo. D'autant plus que l'ennemi le plus puissant, celui qui organisait des maquis et le terrorisme contre le Burundi, c'est le Rwanda. Voilà donc ce qui se passe. Guerre américaine, déstabilisation par le Rwanda, guerre des agents américains, Tshisekedi, Kagame, Museveni et Fayulu, et évidemment inquiétude des États régionaux. Pour le moment, je ne sais pas dans quelle situation évoluera le tout. Évidemment, l'association des États régionaux, elle fait tout pour pacifier la situation, mais les forces qui poussent à la guerre, à la fois au Rwanda, mais surtout au Congo, sont des forces puissantes. Ajoutons en plus que Tshisekedi, évidemment, il s'inquiète pour sa réélection parce que en 2017, il a surfé sur une situation, c'est-à-dire montée en puissance de Fayulu, déstabilisation par les Américains de Kabila et surtout la mise en place d'une révolution de couleur autour de l'opposant Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila Kabendé, qui est encore puissant au Congo, s'est réconcilié récemment avec Katumbi dans une optique anti-Tshisekedi. Depuis que Tshisekedi a envoyé en prison à vie son ancien premier ministre Vital Kamerhe, qui l'a aidé à prendre le pouvoir en 2017, mais la Cour d'appel du Congo vient d'innocenter Kamerhe, qui va être libéré de prison et qui, évidemment, a des comptes à régler avec Tshisekedi. Tshisekedi a donc tout à gagner d'une guerre avec le Rwanda, d'autant plus que dans ce cas-là, il y aurait ce qu'on appelle au Congo une situation de glissement, c'est-à-dire que Tshisekedi tenterait de rester au pouvoir en reportant les élections.
Au Mali, des habitants des villages de Bendougou, de Diabé et environnant dans la commune rurale de Diakon à 160 km de Bafoulabé ont décidé de refaire la route qui lie Bendougou à d'autres villes. Les travaux ont démarré le 26 juin 2022. Toutes les couches de la société participent aux travaux. Selon les habitants, la réhabilitation de cette route facilitera le trafic entre l'un des plus gros villages de Soroma, Bendougou, à d'autres villages et communes voisines. Les travaux sont entièrement financés par les habitants et les expatriés établis à l'étranger selon malijet.com. La Chine remet 10 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 à l'Éthiopie. Le gouvernement chinois a remis lundi à l'Éthiopie 10 millions de doses supplémentaires du vaccin Sinopharm contre la COVID-19. Ce nouveau lot de vaccins contre la COVID-19 permettra de renforcer encore davantage les efforts de vaccination contre la COVID-19 de l'Éthiopie. La cérémonie de remise de cette livraison a eu lieu en présence de hauts responsables du gouvernement éthiopien et de membres de la mission diplomatique chinoise à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. La ministre éthiopienne de la Santé, Lia Tades, a déclaré lors de la cérémonie que ce nouveau don, le 7e lot de vaccins fournis par la Chine à l'Éthiopie, donnerait une impulsion aux efforts de l'Éthiopie dans la lutte contre la pandémie. Selon l'ambassade de Chine en Éthiopie, la Chine s'est jusqu'à présent engagée à fournir 25 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 à l'Éthiopie tout en facilitant l'acquisition de vaccins chinois par l'Éthiopie. L'Union africaine exige une enquête immédiate sur les circonstances de la mort de 23 migrants à Melilla. Vendredi 24 juin, 2000 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont tenté d'entrer en Espagne via l'enclave de Melilla. Les vidéos montrant des violences policières contre ces migrants ont suscité de nombreuses critiques contre les autorités marocaines et espagnoles. Trois jours après le drame de Melilla, l'Union africaine a réagi ce lundi 27 juin à travers un communiqué du président de sa commission. Dans le document officiel, Moussa Faki Mahamat s'est dit profondément choqué et préoccupé par le traitement violent et dégradant infligé aux migrants qui tentaient de franchir la frontière internationale entre le Maroc et l'Espagne. Le président demande une enquête immédiate sur cette affaire et rappelle à tous les pays leurs obligations en vertu du droit international de traiter tous les migrants avec dignité, tout en s'abstenant de recourir à une force excessive, a indiqué le communiqué de la Commission de l'Union africaine dans le sillage de plusieurs ONG qui réclament aussi des enquêtes. Le président nigérien Mohamed Bazoum a salué ce dimanche les bons résultats des forces armées contre les terroristes de Boko Haram et de Daesh en Afrique de l'Ouest, assurant que la guerre est en train d'être gagnée. Les résultats sont là, ils sont bons, s'est félicité le chef de l'État devant des militaires dans une garnison de Diffa, la grande ville du sud-est nigérien, proche du Nigeria. Nous avons rendu plus consistant le dispositif sécuritaire. Nous sommes en train de gagner cette guerre. Il nous reste très peu d'efforts, a-t-il également lancé aux soldats stationnés dans la commune de Geskerou, toute proche du Nigeria, estimant que la fin de Boko Haram est très proche. Le président nigérien a également annoncé que des populations déplacées de 45 villages de la zone de Geskerou seront bientôt ramenés dans leur localité d'origine.